De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama, on va essayer de faire vite aujourd'hui parce qu'on a un gros sommaire. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Alors de quoi on va parler?
Eh bien moi je vais vous parler du jeu, une comédie dramatiquement ratée, hein, on peut le dire, de Fred Cavaillé, que j'ai eu également la chance d'interviewer avec toute l'équipe du film, et vous allez voir, il y a du beau casting. Je vais également vous parler de Capharnaüm, un film libanais qui a eu le prix du jury à Cannes cette année.
Et puis toi Manu?
Bah, First Man, l'homme qui va sur la lune, de Damien Chazelle, et puis L'amour flou de Romane Boringer et Philippe Robaud.
Et puis moi je vous parlerai du dernier film de Lars von Trier, The House That Jack Built, et puis The Wine Calling, un documentaire sur le vin nature, et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial vin au cinéma, mais on n'en est pas encore là, alors qu'une capsule Soyouz à destination de la station orbitale internationale eh bien, a dû atterrir d'urgence. Damien Chazelle nous emmène au plus près de la conquête de la Lune, c'est ça?
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Alors on peut dire que Damien Chazelle a justement de la suite dans les idées, hein. C'est un peu un auteur obsédé par la même thématique de film en film, le sacrifice de sa vie personnelle au service de sa carrière, bah, quitte à en souffrir. Alors mais il ne s'agit pas d'un point de vue carriériste, mais plutôt d'une quête vers un absolu, une idée fixe proche de la transe. Alors après la danse et le jazz, voici venue la quête de l'espace. Alors après Whiplash et La La Land, hein, donc le jeune cinéaste auréolé de quelques Oscars revient avec un projet moins personnel en apparence, un biopic donc sur Neil Armstrong que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter, c'est pas vraiment utile. À moins d'être dans la Lune ou sur une autre planète, il me semble impossible de ne pas connaître ce personnage mythique dont, paradoxalement, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Alors déjà, Damien Chazelle n'est pas l'auteur du scénario, hein, qui respecte à la lettre les codes d'un des genres les plus consensuels du cinéma hollywoodien, le biopic. Neil est un pilote jugé un peu distrait en 61 par ses supérieurs. Il vit paisiblement avec sa femme et ses enfants dans une résidence pavillonnaire. Le film retrace donc le parcours de cet homme ordinaire qui accomplira donc l'acte extraordinaire, hein, que l'on connaît bien. Rien n'est laissé au hasard, hein, les séances d'entraînement difficiles, la perte douloureuse d'un de ses enfants, mais aussi de ses amis, ses rapports conflictuels avec sa femme qui aurait rêvé d'une existence normale, jusqu'à cette fameuse phrase culte lorsque Neil posera un pied sur la Lune, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Alors un personnage d'ailleurs très curieux, hein, Neil Armstrong, assez distant, assez désincarné, comme on peut en témoigner sur cet extrait lors d'une conférence de presse.
Neil, si tout ça se concrétise, vous entrerez dans l'histoire. Quel effet ça vous fait quand vous vous dites tout d'un coup, dis donc, si le vol réussit...
Nous ne prévoyons rien d'autre qu'une réussite sur ce vol.
Je voulais dire, quel effet ça vous fait l'idée d'entrer dans l'histoire?
Alors pas très excitant, hein, sur le papier, hein. First Man ne l'est pas tellement à l'écran, engoncé dans son sujet archi convenu, sa dramaturgie ne s'écartant jamais des sentiers battus. Alors conscient de la teneur assez anecdotique du récit, hein, lié sans doute au personnage même d'Armstrong, pas très cinématographique, Damien Chazelle se concentre sur la mise en scène, adoptant un point de vue radical, très intéressant, mais... paradoxalement, rarement payant. La caméra toujours flottante, hein, parfois tremblante, est constamment collée au personnage, filmant de très près les visages, accumulant les gros plans, afin sans doute de nous faire ressentir un sentiment d'étouffement. Alors Chazelle souhaite sans doute montrer que nos vies étriquées, dictées par des normes contraignantes, ne sont rien face à l'immensité de l'espace. Alors cet aspect un peu claustrophobe séduit au début, intéresse ensuite et finit par agacer. Chazelle flirte à plus d'un moment avec le found footage pour nous faire ressentir l'angoisse éprouvée par Armstrong à l'intérieur de la fusée. Alors cet aspect immersif fonctionne lors des moments attendu, le décollage de la fusée notamment, véritable morceau de bravoure splendidement réalisé. Mais au final, c'est bien peu pour un film très très long, 2h22, trop linéaire dans sa construction pour captiver, la forme alambiquée même de la mise en scène finit par desservir cette œuvre qui peine à sortir du lot des biopics contemporains. Alors cependant, on peut reconnaître une qualité à First Man, celui d'éviter tout relent patriotique, n'insistant pas d'ailleurs sur le fameux drapeau américain planté sur la Lune. Au contraire, on ne l'aperçoit que fugacement lors d'un plan large, une petite audace à signaler, hein, qui a même valu quelques critiques négatives dans les journalistes américains qui ont jugé le film antipatriotique.
Et comme par hasard, c'est un Français qui le réalise.
Oui, non, mais c'est assez, ouais. C'est assez curieux, mais bon. Alors, pour interpréter Neil Armstrong, Ryan Gosling semblait un choix parfait. Il l'est d'ailleurs, hein, mais Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il est, il est parfait, il interprète parfaitement le type désincarné, mais alors son interprétation ne débouche absolument sur aucune émotion. Enfin, c'est je sais pas, une enveloppe vide. Et il a l'air, il a l'air en plus lui constamment dans la lune.
Dans la lune, c'est peut-être ça.
C'est un peu ça. On lui pose des questions, ouais. Il répond mécaniquement. Enfin, c'est très très curieux.
En tout cas, le premier homme sur la lune, c'est en salle depuis le 17 octobre. Tout comme le jeu, c'est l'interview de cette émission. C'est celle de Fred Cavaillé et d'une partie de ses acteurs.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Sept amis se retrouvent pour dîner, comme cela leur arrive souvent. Il y a trois couples aux relations plus ou moins tendues et l'éternel outsider interprété par un excellent Grégory Gadebois. L'un d'eux propose, un peu par défi et beaucoup par curiosité, de faire un jeu. Tout le monde va mettre son portable au milieu de la table et le moindre SMS ou mail reçu devra être lu devant tout le monde. Naturellement, ce qui devait être un jeu régressif entre adultes consentants tourne rapidement à une succession de petits meurtres entre amis. Personne ne va en sortir indemne. Alors le réalisateur Fred Cavaillé vient du thriller et cela se sent. Le rythme est excellent, ne faiblit pas une seconde alors que le film dure deux bonnes heures et la mise en scène en huis clos accompagnée d'une musique dramatique crée une atmosphère tendue qui est pour le coup davantage celle d'un thriller psychologique que d'une comédie. L'effet est donc contre-productif, difficile de rire avec une ambiance aussi sordide. Le film pose alors une question intéressante. Qu'est-ce qu'une comédie ? Est-ce que l'on rit des choses que l'on trouve instinctivement drôles ? Ou est-ce que l'on rit parce qu'on nous a convaincus, par exemple grâce à une bande-annonce, que ce film était drôle et qu'on était là pour décompresser de notre semaine ? Parce que, objectivement, non, le jeu n'est pas un film intrinsèquement comique. Les situations sont dramatiques, d'autant que la façon dont jouent les comédiens, qui sont tous très bons, force l'identification. Du coup, le film, malgré ses indéniables qualités de réalisation, est raté, voire gênant, avec sa volonté avérée de nous faire rire pendant deux heures des tromperies et des humiliations que subissent ces personnages qui sont en plus très attachants. Pour être clair, lorsque l'on voit Christian Clavier être trompé par sa femme, on s'en fout, donc on en rigole. En revanche, quand c'est Roche Dizem, on n'a pas envie d'en rire. Autour du comédien, on retrouve Stéphane De Groot, Bérénice Bejo, Doria Tillier, l'excellente Suzanne Clément, Vincent Elbaz et donc Grégory Gadebois. Mais malgré cette volonté gênante de vendre le film comme une comédie populaire, eh bien, force est d'admettre que les dialogues sont bons, les personnages sont très intéressants, très bien écrits. Bref, le film comporte beaucoup d'aspects réussis. Sauf qu'en fait, Fred Cavaillé n'y est pour rien. Le jeu est le remake d'un film italien qui s'appelle Parfait étranger de Paolo Genovese, que j'ai été regarder pour me faire une idée. Et alors en fait, on ne peut pas dire que le jeu soit un remake. C'est un plagiat, plan par plan, phrase par phrase, du film italien. Cavaillé n'a ajouté aucune idée personnelle, mais au moins, le film italien était un drame et il l'assumait. Il n'avait pas le désir mesquin de se faire passer pour une comédie populaire à tendance théâtre de boulevard pour tenter de faire un maximum d'entrées. Voilà, maintenant que je l'ai bien défoncé, on va écouter l'interview donc, où on entend, il me semble, Suzanne Clément, Roche Dizem, Stéphane De Groot et donc le réalisateur Fred Cavaillé.
Et si on faisait un jeu ?
Un jeu ?
On pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute.
C'est-à-dire que le film effectivement parle des portables, mais...
C'est le trait de désunion.
Ouais, c'est le véhicule, je dirais, pour tout ça. Et ça parle de l'amour, de l'amitié, est-ce qu'il est bon de tout se dire, pas... mais avant ça, c'est un système plutôt très ludique, c'est-à-dire qu'on attend de savoir ce qu'ils vont recevoir comme texto, et à un moment, on n'a même plus envie qu'ils reçoivent des textos, parce que voilà, on se dit c'est trop...
Et toi, tu montrerais le tien à Vincent ?
Mais moi, je veux pas savoir ce qu'il y a dans son portable. Hein.
Enfin, mais c'est amusant !
Non, c'est pas très amusant, non, c'est... Non !
Vincent, t'as un message.
Ok.
Alors ?
Il y a 30% chez Jardiland et je peux pas y aller.
Ah, il est con, celui-là.
Ça fait partie de ces films qu'on ne prépare pas. Quand vous organisez un dîner chez vous, vous ne faites pas de répétition avec vos potes le soir d'avant. Et en général, c'est assez foireux, parce qu'on se dit à Noël ou le 31 décembre, on va faire une fête avant. Et c'est toujours celle qui est la plus réussie, et le lendemain, ça peut souffler retombe. Et voilà, oui, c'est un film où on prépare. On avait envie de découvrir au fur et à mesure ce qui se passait entre les uns et les autres, puisqu'il y a une alchimie, ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvrait en même temps ce qui se passait pendant autour de cette table.
Top, on a un message.
Je veux ton corps. Bah c'est qui ?
Je t'avais dit que ce jeu c'était pas une bonne idée.
Ah, ce film m'intéressait parce que le huis clos. Ouais. On dit au cinéma le truc le plus chiant à réaliser, c'est une scène de table. Et là j'allais être 5 semaines et demie autour d'une table. Ah, et fallait que ça soit. Moi personnellement, quand on me dit tu vas voir le film, c'est super, c'est un huis clos. pas sûr que j'y aille le voir. En termes de mise en scène, c'est mon film le plus compliqué.
Faut que tu m'aides. J'ai une amie qui m'envoie tous les soirs une photo d'elle.
Genre ?
Non. C'est pour rire.
Ça va pas faire rire ta femme.
Justement. En échange, j'ai le temps de recevoir la photo.
Et c'est moi qui passe pour un con.
Tu peux le casser comme ça.
Tu nous montres ce qu'il y a dans le téléphone, là.
Oh, la vache !
Ça, c'est pas...
Le danger de tourner dans un film comme ça, c'est la différence entre l'interprétation et la connivence. Et c'est là où il intervient. C'est-à-dire qu'on est tentés tous d'en faire un peu plus que ce qui nous est proposé, parce que tout nous amène à ça. Et quand vous avez par exemple un Vincent Elbaz qui essaie de prendre toute la place, s'il n'y a pas un metteur en scène pour le calmer, le canaliser, on voit que lui dans le film. Je trouve que là où Fred a été très fort, c'est justement dans cet équilibre qu'il a amené. C'est-à-dire que quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça très fort d'avoir réussi à équilibrer les sept personnages.
Mais c'est un numéro, il n'est même pas enregistré, c'est une erreur.
On a besoin d'un moment où on fait une prouesse quoi, dans un tournage. Des fois, ça rassure, ça fait « Ok, j'ai réussi à faire un truc ».
Il y a l'acteur qui a un moment, et là, tu fais « Ah putain, il est bon lui hein ». C'est quand ça va être ton tour. Et en fait, ça te met la pression et tu sais que le niveau, il est assez élevé et il va falloir être au moins au même niveau. Donc, c'est marrant de ne pas se le dire, mais ça se passait dans les regards.
Vous imaginez le nombre de divorces si chacun fouillait dans le portable de l'autre ?
Casse-toi, je te dis !
J'ai reçu un message Facebook. Quelqu'un qui veut savoir si tu portes une culotte.
Faut arrêter avec ce jeu-là.
Voilà, on a voulu que l'équipe se défende et ils se défendent un peu sur le jeu d'acteurs hein, présent dans le film. C'est peut-être ça qui sauve
oui,
le film.
Oui, ils sont très bons en effet. Ouais. Hein. Ils jouent tous très bien.
Allez, on parle de l'appel du vin nature.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça ? Une blague ou quoi ?
Moi, je fais vraiment du vin sans rien. Pressé avec les pieds, tout propre, attention. Hein.
La France est incontestablement le pays du vin, une culture, une manière de vivre à tel point qu'actuellement, eh bien, certains aimeraient que le breuvage soit plus lourdement taxé hein, pour le mal qu'il cause. À regarder Wine Calling, documentaire de Bruno Sauvard sur des vignerons élaborant du vin nature, on n'a pourtant pas l'impression que le vin peut faire du mal. On a même l'impression que ça leur fait du bien tellement ils s'enfilent des coups à toute occasion. Mais qu'est-ce que le vin nature finalement ? Voilà ce qu'en dit la revue des vins de France.
Les vins nature, ce sont des vins de fainéants. Ils sont bourrés de défauts, mais ils séduisent les néo-vignerons comme les néo-consommateurs qui s'habituent à ces faux goûts ou les prennent pour des expressions du terroir. Une régression.
Un vin de feignant, selon eux, qui ne peut exprimer un terroir. Pourtant, le vin nature est un vin plus que bio. Il est élaboré sans engrais ni pesticides de synthèse, en faisant l'impasse sur 99% des additifs. De quoi imaginer que le terroir peut quand même se transmuter en arômes. Alors, c'est ce qu'on apprend, entre autres, hein, dans le documentaire de Bruno Sauvard, qui va à la rencontre de vignerons qui ont fait le choix radical de produire et vendre un vin, alors qui est très loin des standards actuels, comme le serait un Château Pétrus hein, dans le Bordelais, ou un vin de la Romanée-Conti en Bourgogne, qui compte parmi les vins les plus appréciés au monde. Alors on est très loin de ce monde-là justement qui a vécu longtemps avec la chimie dans les vignes jusqu'à rendre les parcelles lunaires et les vignerons malades. Mais si dans Wine Calling on apprend les rudiments de la fabrication du vin, on s'en tient alors aux vendanges, à la fermentation, à l'élevage en barrique, on s'attache davantage aux hommes et femmes qui façonnent ces vins en prenant des risques. Alors ces vignerons qui ont des origines diverses, hein, l'un était prof de physique chimie, l'autre cadre sup, un autre était conducteur de chantier. Eh bien c'est bien simple, un seul est fils de vigneron mais a préféré tenter l'aventure du vin nature en duo avec un apiculteur. Au fur et à mesure qu'on les écoute, eh bien, se dessinent leurs utopies. Ils savent qu'ils sont dans la marge et qu'au travers de leur vin, eh bien, c'est aussi un modèle de vie et d'entraide qui se dessine entre l'un des vignerons qui fait tout à la traction, c'est-à-dire donc avec un animal, une autre qui cultive son nectar sur des pentes habituées au vin doux naturel et d'autres qui s'échangent un pressoir pendant la nuit. Or, tous s'identifient, se connaissent et se rejoignent pour faire du vin nature un vin tel qu'il doit être, mais aussi un vin qui leur ressemble. Bruno Sauvard alterne les discussions, les personnalités, les expériences, les questionnements et les difficultés que rencontrent ces professionnels pour nous immerger dans cette culture du vin nature en ne lésinant jamais sur la musique et le montage un poil survolté, ce qui fait de Wine Calling un documentaire bavard mais dynamique et quelque peu instructif. Le réalisateur donc n'a aucune distance avec son sujet, il ne peut cacher son attachement à cette pratique et aux gens qui l'amènent, mais on est rassuré que le documentaire soit davantage le prolongement d'un manifeste sur le vin nature que la démolition tout en règle du modèle de consommation actuel qui nous confronte certes à des vins de moins en moins chargés de chimie, mais néanmoins standardisés. On ne parle pas des vins bordelais préparés avec des raisins du Languedoc qui arrivent par camion la nuit quand tout le monde dort. Le parti pris du réalisateur est de rester en vase clos avec ses vignerons pas comme les autres. Alors on est dans leur hangar, sur leur tracteur, dans leur cuisine ou salon, auprès de leurs enfants même parfois. Et à peine faisons-nous une incursion dans des bistrots, mais c'est pour louer une fois de plus le vin nature. Évidemment, le documentaire n'est pas parfait. Le sens unique qu'il emprunte avec enthousiasme peut déplaire, mais il a l'avantage d'être sincère, aimable et fantaisiste. Le vin nature n'est pas un vin de feignant, ça non. Et passé l'heure et demie, on a envie de boire les cuvées Octobre Rouge, les Glaneuses, le fond de l'air est rouge. Voyez un peu les ouvertures politiques. Ou encore Chuck Barrick, chic et pas cher, rock de luxe, élaboré par un gars du Nord descendu tout en bas de la France et qui élabore son vin comme on joue un morceau de musique en mettant du cœur à l'ouvrage, de l'envie et voire de la passion. Voilà. Bah, je vous recommande un petit documentaire, Wine Calling, mais je pense que ça pourrait vous plaire, surtout si vous appréciez le vin et que vous recherchez des informations sur ce vin nature. Ça nous donne l'occasion de jouer à un blind test sonore, évidemment. Oui, on en a déjà fait un il y a un an, mais je l'ai remanié avec des nouveaux films, mais d'autres qui y étaient déjà.
Spécial Allez. Vin, donc.
Spécial vin, encore une fois. Allez, premier extrait.
Des bouteilles différentes et les mêmes bouchons. Un petit mystère, n'est-ce pas ?
En fait, Henri a toujours été un homme mystérieux.
Mais encore ?
Il aimait l'Angleterre, mais il vivait en France. Il aimait les femmes, mais n'aimait jamais la même au-delà d'un certain temps. Il ne s'est jamais marié. Il aimait l'aventure. Mais dans tous mes souvenirs, je ne me rappelle pas avoir vu mon oncle à plus d'une centaine de pas de l'entrée de ce domaine.
Ce sont des bons souvenirs.
Non. Exceptionnels.
Bon, il n'y a pas beaucoup de films.
Avec la musique, ça fait un peu américain. Ouais.
Oui, c'est la série de Les Scott.
Une grande année.
Oui.
Avec Russell Crowe, c'est ça ?
Oui, et Marion Cotillard. Et là, on était en Provence-Côte-du-Rhône. Allez, on va du côté de la Bourgogne.
Je ne crois pas que tu vas y arriver comme ça, en jetant un coup d'œil de loin de temps en temps. Ce métier, tu ne le connais pas. Tu ne l'as même jamais appris. Un jour, ça va se sentir.
Tu crois vraiment que c'est ça que j'ai envie d'entendre ? Ça ne te coûterait pas plus cher de m'encourager un peu ?
Oh, mais tu n'as besoin de personne. Tu nous l'as assez prouvé. Puis t'inquiète pas, je t'emmerderai pas. T'es un grand garçon maintenant. Sans compter qu'ici, tout le monde a envie de savoir de quoi t'es capable.
Tu vas m'aider ?
Non.
Bon, c'est un film qui aurait pu être un téléfilm.
C'est Gérard Lanvin ?
Oui, mais c'est Gérard Lanvin, avec Jalil Lesper, qui est son fils, qui revient de Paris et qui doit reprendre le domaine. Parce que sinon, il coule. Mais en plus, tu l'as vu.
C'était pas génial.
Et non.
Il n'y a pas cru dedans ?
Premier cru. Tout à fait. Ouais. Voilà. Non, c'était pas génial. Allez, un troisième extrait.
Et toi, qu'est-ce que ça te dit ?
J'aime bien la touche florale finale. Un petit goût de rose fanée.
Où est-ce que t'as trouvé la rose fanée là-dedans, toi ? On n'est pas en Côte de Nuit, on est en Californie. C'est pas un vin romantique, c'est Coppola, Valkyrie. C'est pas très délicat, un peu brutal.
Non, c'est brutal, non. C'est trop pas quand même.
Oh. Moi, je suis d'accord avec Martin, il y a de la rose fanée. Enfin, des fleurs, en tout cas. Je supporte pas l'idée de la pensée unique.
Vous vous égarez, ma petite Alice.
Alors, il faut identifier à chaque fois les acteurs. Là, c'est Nils Harris-Trupp, en père dur avec son fils, incapable de reconnaître les vins, donc c'est difficile de prendre la suite. C'est « Tu seras mon fils » de Gilles Legrand. Voilà. Quatrième extrait.
À ton avis, il aurait fait quoi, papa ?
Mais arrête, Juliette.
Quoi ?
Mais qu'est-ce que t'as besoin tout le temps de penser à papa ?
Attends, qu'est-ce que t'as besoin, toi, d'aboyer à chaque fois qu'on parle de papa ?
Si,
t'aboies, c'est quoi ton problème avec papa ? Il t'a fait quoi ?
Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Attends, t'es marrant, toi. Évidemment, pour vous, c'était beaucoup plus simple. Moi, j'étais l'aîné, je prenais tout sur la gueule.
Bon, ça, c'est un des derniers films qui est sorti. C'était l'an dernier. Film de Cédric Clapiche. Qui nous parle de la Bourgogne. Allez, on va du côté de la Californie maintenant.
Essaye de redevenir un type plein d'humour, d'accord ? Le gars que t'étais avant de partir en vrille.
D'accord.
Tu te rappelles de lui ? Tout le monde adorait ce gars-là. Et n'oublie pas, ton roman va sortir à l'automne.
Ah, vraiment, c'est passionnant. Et il s'appelle comment ?
Bon, viens par ici. Viens là. Ne fais pas du sabotage. Si t'as envie de te comporter en je m'en foutiste, c'est ton droit. Mais viens pas me saboter mon
temps. Oh, à vos ordres, mon capitaine, d'accord.
Et si elles veulent boire du merlot, on boira du merlot.
Non, si quelqu'un commande du merlot, je m'en vais. Il n'est pas question que je boive un putain de merlot ce soir.
D'accord.
Non.
Relax, Max.
Ça parle beaucoup de vin, mais pas seulement.
Oui, c'est une petite musique agaçante, Sideways.
Oui, tout à fait. Film d'Alexander Payne de 2005. Ainsi s'achève ce blind test sonore. Et maintenant, c'est la suite de l'émission avec Cannes qui nous revient, le prix du jury.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Oui, on enchaîne donc avec Capharnaüm de la Dine Labaki. Le Capharnaüm, c'est la vie de Zeyn, l'endroit où il habite avec ses six frères et sœurs, son quartier extrêmement pauvre de Beyrouth, sa vie même, dans laquelle il trimballe son air buté, travaillant depuis qu'il est en âge de marcher et sans espoir de lendemain meilleur. La seule chose qui importe à Zeyn, c'est de survivre et de protéger sa sœur, qui, sitôt ses premières règles arrivées, sera offerte à l'épicier du coin de 10 ans, son aîné. Mis à la porte de son propre foyer par ses parents, il décide de survivre comme il peut par ses propres moyens et se lie d'amitié avec une jeune immigrée clandestine qui arrive d'Éthiopie avec son bébé. Capharnaüm est une expérience assez oppressante, assez traumatisante, filmée au plus près de la misère et de la souffrance, un film à charge contre la tradition, celle qui pousse les femmes à continuer d'enfanter alors même qu'elles n'ont pas les moyens d'élever leurs enfants. On se demande parfois si le film ne va pas trop loin, hein, s'il ne se complaît pas dans le misérabilisme. Malgré sa mise en scène âpre et maîtrisée, il reste continuellement à la lisière du supportable. Et en même temps, Capharnaüm n'a pas pour but de nous épargner. Hein. Il veut nous montrer cette réalité de façon brute, sans nous préserver. Le film part d'un constat, d'une prise de conscience de la part de sa réalisatrice Nadine Labaki, à qui on devait déjà le très réussi Caramel. Partout dans le monde, les enfants sont les premières victimes de la misère, de la violence, de la guerre. Le film qui montre une réalité difficile à accepter pour le Liban, il a été assez mal accueilli. Le Liban est aujourd'hui une société à deux vitesses, hein, une partie de la population vivant relativement bien, étant éduquée, et l'autre partie eh bien, présentant encore toutes les caractéristiques des peuples du tiers-monde. En revanche, au Festival de Cannes, le film a été très bien accueilli. Le festival qui était cette année très politique a récompensé Nadine Labaki avec le prix du jury. Un prix du jury, je pense, qui est quand même largement limité. Si vous avez le courage d'y aller, allez-y quand même, ça en vaut la peine.
Et on passe bien du prix du jury à un film hors compétition, c'était celui de Lars von Trier avec The House That Jack Built.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Eh bien pas du tout, c'était le grand retour de Lars von Trier à Cannes, 7 ans après avoir été hué puis écarté du festival. Suite à ses propos tenus sur Hitler dont il disait comprendre l'homme. Certains ont pris ça comme une provocation alors que son propos était argumenté et que le Danois était loin d'en faire l'apologie. Mais tiens, dans son dernier film, Lars von Trier nous fait toucher l'horreur nazie puisque dans The House That Jack Built, on est face à une évocation du nazisme et de ses réalisations techniques et architecturales. Sans doute que ces séquences qu'on penserait tout droit sorties d'un documentaire pourraient en heurter plus d'un. Mais ça ne sera pas tout car le plus gros morceau de ce dernier long métrage du maître danois repose sur un personnage ouvertement sexiste, architecte plutôt médiocre, Jack cherche à construire sa propre maison mais sans y parvenir. Faute de quoi, il en construit une avec ses propres moyens et un talent qu'on lui découvre, celui du meurtre et spécialement de femmes qualifiées de stupides quand il ne s'agit pas de jouer au baltrap avec des enfants. Les crimes étant l'occasion de mise en scène macabre et plutôt sophistiquée. Avec Jack, nous sommes face à une obsession meurtrière qui débute pour ainsi dire presque par hasard, au détour de la rencontre avec une femme particulièrement insupportable. Une scène d'une drôlerie et d'une cruauté bancale où Uma Thurman excelle encore une fois, elle apparaissait déjà avec éclat dans Nymphomaniac. Alors ce crime que l'on aperçoit dès la bande-annonce est le point de départ d'une suite de mises à mort constituant comme un parcours obligé pour Jack qui va tenter via une voix off de nous éclairer sur ses actes, nous soumettre ses doutes comme ses croyances, ses pensées sur l'âme et le corps, l'enfer et le paradis. Un dialogue verra aussi le jour avec un certain Verge, interprété par Bruno Ganz, qui nous apparaît comme le Virgile de la Divine Comédie, celui qui a guidé donc Dante à travers le cercle des enfers. Les notions sont ici simples et radicales, le bourreau et la victime, le maître et l'esclave, l'artiste et son modèle, le prédateur et la proie. Par exemple, il y a un combat illustré très simplement par un tigre qui se lèche les babines, suivi d'une image où l'on voit une brebis dans un pré verdoyant. Ça c'est les images aussi qu'on voit dans la bande-annonce. Ce procédé de voix off ou de dialogue illustré par des images documentaires d'une autre nature que la fiction était déjà le procédé utilisé dans Nymphomaniac pour asseoir une érudition, éclairer une théorie ou faire un rappel historique. Le procédé narratif reste toujours brillant, selon moi. Ainsi, pour confronter son personnage à son mal et à son projet d'élever le crime au rang d'art, le réalisateur convainc que l'enfer de Dante, le pianiste Glenn Gould, Goethe, Bob Dylan, l'architecte nazi Albert Speer, les Stukas, c'est les bombardiers... les bombardiers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avoue que c'est la partie un peu étonnante. Et il revient aussi sur les inspirations macabres de certains artistes dans l'histoire de l'art. L'œuvre de Jacques et les principes qui régissent sa vie sont présentés au travers de 5 séquences qualifiées d'incidents, avec une sorte de guillemets, ses talents sur 12 ans. Tous n'ont pas la même force et plus nous avançons dans ce récit structuré, plus la farce noire en fait s'écarte au profit d'une réflexion plus vaste sur l'art avec un délire visuel plutôt sobre, mais un discours toujours plus appuyé. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'intervient l'architecture nazie. Lars von Trier en arrive même à l'autocitation, moment où il m'a perdu tout à fait en fait. Sous ses airs de film cruel, The House That Jack Built contient des niveaux de discours qui mériteraient plusieurs visionnages pour être saisis, que ceux qui sont sensibles au sang eh bien, ne soient pas inquiets. Le réalisateur danois filme des crimes, les orchestres avec froideur, cruauté, parfois drôlerie, mais n'aime pas l'hémoglobine. Lars von Trier n'est pas Quentin Tarantino. Et qu'en est-il eh bien, de cette maison que Jack essaie de construire? C'est l'un des niveaux de récit. Eh bien, celle-ci se reconstruit à mesure qu'il supprime des vies avant que le meurtrier eh bien, ne parvienne à trouver comment faire aboutir son projet à la fin du film. Voilà, donc...
Ça a l'air drôle, hein, tout ça.
Non, ça a l'air, c'est une farce noire, mais voilà, qui se transforme à mesure. Je pense que tu iras le voir, Manu, et tu pourras venir en reparler d'une autre manière.
Mais toi aussi, hein.
Toi aussi, j'irai le voir.
Bien sûr, tout le monde ira le voir. Et je le recommande à tout le monde. Donc, c'est dans les salles depuis le 17 octobre.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Il se passe un truc, c'est que Roman et moi, on se sépare.
Oh, c'est réglé.
Eh ouais.
Deux plateaux nus en béton qu'on va acheter et on va relier ces deux plateaux nus par la chambre de nos enfants.
Alors le projet initial de L'Amour Flou est assez singulier, filmer sa propre séparation en temps réel ou presque, mixant de manière intelligente fiction et réalité, laissant le spectateur du coup dans une position assez floue. Alors Philippe Rebaud et Romane Bohringer sont derrière la caméra et devant, d'ailleurs dans leur propre rôle. Roman et Philippe se séparent, donc après 10 ans de vie commune, ils ont 2 enfants, un chien, ils vivent de manière assez confortable, s'entendent bien, mais ils ne s'aiment plus. Enfin si, d'un certain côté ils s'aiment encore, mais ne sont plus amoureux. Quoique ce n'est pas si sûr, le temps passe et on se fait parfois des idées, on a envie d'aller voir ailleurs, de reprendre en main son existence, mais l'autre compte quand même, d'où le titre, L'amour flou. Oui, cette relation n'est pas très claire, et il faut un certain aplomb pour oser se mettre à nu de cette manière, de filmer le réel dans son intimité, d'inclure d'ailleurs des membres de la famille, dont une apparition savoureuse de Richard Bohringer qui a l'air atteint de gâtisme, mais là je pense qu'on est plus dans quelque chose de proche de la fiction. Alors dans ce grand bordel existentiel, alors pour compliquer le tout, Roman et Philippe décident de cohabiter dans un appartement, ou plutôt deux appartements séparés, communiquant par la chambre de leurs enfants. Alors comment se séparer sans heurts, sans froisser l'entourage, sans bousculer le quotidien des enfants, et peut-être sans souffrir? L'idée est astucieuse, mais elle n'est pas sans heurts. En tout cas, elle débouche sur des situations assez cocasses.
Vous êtes invité ce soir à un dîner chez papa à 20h30 à base de pasta à la papa.
Tout à fait, les enfants, tout à fait, mais auparavant, à 19h, vous êtes attendus dans un décor aux subtiles influences orientales pour un bain moussant, s'il vous plaît, dans la salle de bain de maman.
En revanche, je vous enjoins de ne pas trop tarder car vous avez ce soir une projection d'un dessin animé sur un écran plat de papa.
Non, pas la télé. La télé, c'est dégueulasse, non?
Oui, bon, c'est assez amusant de voir ça à l'écran. Alors, il y a quelque chose là, de vertigineux dans cette œuvre en miroir, presque schizo dans cette auto-analyse de leur propre situation. Alors, ce récit introspectif à la lisière de l'exhibitionnisme, sans être obscène, évite l'un des écueils inhérents à beaucoup d'autofiction, le nombrilisme. Alors, bien sûr, on ne saura jamais déceler le vrai du faux. Alors, est-ce que Roman est effectivement une hyperactive et un poil hystérique? Ou est-ce que Rebaud, avec son air de grand duduche, ressemble à une sorte d'ado attardé et attachant qui fait du skateboard pour draguer les minettes? Alors, on ne sait pas. Ou encore s'il est un fervent admirateur de Clémentine Autain de La France Insoumise. Alors, les portraits sont justes et les éléments de fiction rapportés sont savoureux et s'intègrent parfaitement à cet univers déglingué conçu comme une sorte de work in progress. Alors, Reda Kateb est hilarant, célibataire dans le déni, voit une sorte de fascination maladive aux chiens. Alors, tonique, drôle et émouvant, L'amour flou prêche un peu par la nature même du film. Alors si l'écriture est particulièrement soignée, voire brillante, même dans les moments les plus improvisés, la mise en scène se contente d'enregistrer visuellement ce qui se passe à l'écran, sans réel effort concernant la lumière, le son et le montage, qui est quand même important pour du cinéma. Mais bon. Alors ce cinéma vérité séduit par sa liberté de ton, son idéologie un peu post-68arde, moins dans le vent qu'il n'y paraît, ses pics bien sentis envers les réactionnaires, mais ne décolle jamais, faute d'absence de propositions cinématographiques. L'amour flou paraît parfois préfabriqué, engoncé dans ses propres certitudes, sa propre bien-pensance, adressé à un public sain et cultivé, conquis d'avance. Alors, à force de distanciation et même de pudeur, hein, le film de Boringer et Robot possède les défauts de ses qualités. Il ne dérange jamais, n'ose pas franchir un seuil de peur d'aller trop loin, d'aller au-delà du sujet de société pour aller fouiller à l'intérieur des personnages. Une séparation, même quand elle se passe bien, est toujours une souffrance et elle n'apparaît pas à l'écran, volontairement sans doute, hein, pour éviter, on va dire, peut-être une forme de complaisance. Mais du coup, l'amour flou reste à la surface de son sujet, préférant s'installer confortablement dans son ambiance de feel-good comédie, agréable et cotonneuse, hein, peuplée de gens bienveillants. Hormis un directeur d'école ultra réac, tous les autres personnages sont absolument formidables. Alors si cette première œuvre commune manque de tripes et de forme, elle vous fera néanmoins passer un excellent moment en compagnie de formidables comédiens, à commencer par Philippe Rebaud, qui est vraiment, je dirais, l'intérêt principal de ce film, parce qu'il est vraiment très très drôle.
Et bah, comme Matt Dillon dans Lars von Trier, qui est pas très drôle, mais qui pourrait être un peu drôle aussi. Mais ça permettra d'équilibrer.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
Marine, la semaine prochaine, tu auras vu une comédie.
Oui, je vais vous parler du Grand Bain de Gilles Lellouche.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai d'un film primé à Cannes, l'excellent, mais vraiment excellentissime, Cold War.